Bienvenue à tous dans le nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière de vous livrer des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Alors avant de vous parler du sujet du jour, j'ai un service à vous demander. Laissez-nous, s'il vous plaît, un avis 5 étoiles ou un commentaire sur iTunes. C'est vraiment ce qui permet à Droit Devant de se déployer davantage, de valoriser le travail que ce podcast demande, d'aller sans cesse à la rencontre d'invités plus prestigieux et de nouveaux auditeurs. Bref, de faire grandir cette communauté qui, pour certains d'entre vous, sont là depuis le tout début. Aujourd'hui, dans Droit Devant, je reçois Amélie Favre-Guitté. Mais qui est donc Amélie Favre-Guitté ? Pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas, Amélie est une sorte d'entremetteuse RH, comme elle aime à se qualifier. Après avoir travaillé dans les ressources humaines pendant plusieurs années, Amélie va, au fil des opportunités professionnelles qui se présentent à elle, commencer à accompagner des demandeurs d'emploi de tout âge dans leur recherche de repositionnement. Et c'est une véritable révélation. Elle adore cette nouvelle activité et décide de s'y consacrer pleinement. Depuis, Amélie est inarrêtable. Tous les sujets RH l'intéressent. Aide au recrutement et conseil RH, coaching et gestion de carrière. Elle accompagne aussi des jeunes et des seniors vers l'emploi ou dispense des formations à la négociation. Mais c'est sur l'employabilité des seniors que j'ai souhaité faire appel à elle. Qu'est-ce qu'un senior d'abord ? Eh bien, dans cet épisode, Amélie nous explique ce que recouvre cette notion et parle de la difficulté à trouver un emploi ou à se maintenir dans l'emploi à compter d'un certain âge. Elle explique pourquoi les dispositifs existants pour les seniors sont insuffisants et n'incitent pas les entreprises à recruter ce type de profil. Mais bonne nouvelle, elle fourmille d'idées hyper pertinentes pour améliorer l'employabilité des seniors et nous expose sa vision dans cet épisode. Et ce n'est pas tout, car Amélie a aussi pris le temps de détailler les aides méconnues allouées par Pôle emploi et qui peuvent être activées par les seniors pour se repositionner. Amélie revient aussi sur les arguments percutants qui peuvent convaincre des recruteurs potentiels de faire appel à des profils plus âgés. Elle donne des conseils concrets sur la recherche d'emploi des seniors, de la présentation de la candidature à celle du CV, en passant par l'abandon de la lettre de motivation au profit du mail de motivation, bien plus efficace selon elle, et elle vous dit pourquoi. Elle dispense aussi de précieux conseils sur les secteurs professionnels les plus accueillants pour les seniors aujourd'hui et met en lumière les initiatives vertueuses et sociales qui l'ont séduite récemment. Bref, un épisode plein de conseils utiles que je vous laisse le soin de découvrir maintenant. Très bonne écoute. Alors bonjour Amélie et merci d'être présente, d'avoir accepté cette invitation sur Droit Devant.
Merci pour l'invitation.
Je suis très contente de te recevoir. Quand j'ai commencé à me pencher sur ton parcours, je me suis rapidement rendu compte que tu étais hyper active, inarrêtable. Alors, une foultitude de projets que tu mènes de front, cabinet d'aide au recrutement et conseil RH, coaching et gestion de carrière, agence d'accompagnement des jeunes vers l'emploi, association qui favorise l'employabilité des seniors. La liste est donc longue, je m'arrête là. C'est sur ce dernier projet que j'ai eu envie de te rencontrer, l'emploi des seniors. Mais avant de parler de ça, est-ce que tu peux m'en dire davantage, Amélie, sur ton parcours ?
Alors moi, je suis une fille d'expatriée, donc je suis née en Afrique, j'ai voyagé au Moyen-Orient et j'ai vécu après en France et en Belgique. Donc j'ai le cœur un peu beaucoup belge. Donc forcément, pour cet euro, je suis pour la Belgique, je suis désolée.
Tu as le droit.
Ben, j'ai eu un parcours très rapidement qui est allé dans les ressources humaines. Donc j'ai travaillé pour un cabinet de recrutement quand je suis arrivée sur Paris. Ensuite, j'ai évolué sur les plateformes de recrutement type Monster et compagnie. Et j'ai eu un pied totalement par hasard dans la fonction publique, où j'ai accompagné des demandeurs d'emploi à retrouver un emploi, donc junior, senior, entrepreneur, peu importe. Et j'ai adoré ça, sauf que je ne voulais pas être fonctionnaire, donc je n'ai jamais passé les concours. Et au bout de 6 ans, on m'a dit « Bon, bah, Amélie, maintenant tu rentres chez toi, parce qu'on n'a pas le droit de faire plus de 6 ans à la fonction publique en tant que contractuelle. » Et je suis rentrée chez moi, je me suis demandé ce que je voulais faire, et c'est comme ça qu'est née toutes les marques, donc avec la première, Madircom, qui est le cabinet de recrutement. Et suite à ça, on a lancé effectivement Boost Me Up pour accompagner les plus de 45 ans.
Oui, alors Boost Me Up, donc tu devances mes questions, c'est l'association qui favorise l'employabilité des seniors, qui est une catégorie de population particulièrement touchée par, qui comptabilise le taux de chômage longue durée le plus élevé parmi le reste de la population, avec évidemment de grandes disparités en fonction des tranches d'âge qu'on va considérer. D'abord, tu l'as un petit peu évoqué, mais qu'est-ce que c'est un senior pour nos auditeurs et nos auditrices ?
Il n'y a pas de définition précise aujourd'hui du mot senior. D'accord. Si on prend Pôle emploi, on bénéficie d'aide à partir de 45 ans. Donc on va estimer qu'on est senior à 45 ans. La Sécu d'ailleurs nous envoie un joli courrier à 45 ans pour qu'on prenne soin de sa santé. Après, si on prend un petit peu plus des chiffres à niveau nationaux, on va nous comptabiliser senior à partir de 50 ans, parfois 55 ans. Donc il n'y a aucune stat officielle qui dit à partir de quel âge on est senior. Un senior, pour moi, c'est plus une personne qui a beaucoup d'expérience. Donc on peut être senior à 35, 45. Nous, effectivement, pour l'association, on va prendre à partir de 45. Mais dans nos formations, on a déjà eu des candidats qui avaient 38 ans et D'accord. qui voulaient absolument faire nos formations. D'accord. On leur a dit, bon,
qui n'ont pas été exclus pour autant.
Oui, alors, vous serez nos piou-piou, c'est pas grave.
D'accord. Et alors, à partir de cet âge-là, 45 ans, qu'on peut considérer un peu comme le seuil retenu par Pôle emploi, en tout cas, à partir de cet âge-là, vraiment, tu constates une difficulté, soit de repositionnement professionnel, soit de maintien dans l'emploi.
Oui, tout à fait. Nous, c'est la raison pour laquelle on a créé l'association. Parce que en tant que cabinet de recrutement, on accompagnait nos clients, donc surtout des startups, TPE et PME à recruter. D'accord. Et quand on présentait des profils seniors, elles nous disaient très largement « Ah non, non, trop expérimenté, pour ne pas dire trop vieux. » Ou alors « Ah, ils vont nous coûter cher. » Et donc là, je leur disais « Non, ce n'est pas possible, parce que je vous demande le salaire, et le salaire a été validé avec le candidat, donc il est OK pour le salaire. » il a les expériences que vous recherchez, il a les compétences, le savoir-être, donc je ne vois pas pourquoi le trop vieux ne devrait pas, enfin, vous pose problème. Et c'est la première fois, j'ai rien dit, la deuxième et la troisième fois, j'ai envoyé bouler mes clients en disant non, c'est inacceptable, on peut pas refuser des candidats à cause de leur âge. Et c'est comme ça qu'on a lancé effectivement la structure. Et aujourd'hui, on le voit dans les entreprises, à 40, 45 ans, les gens se posent des questions, les managers commencent à se dire, oh, je commence à avoir des profils seniors, qu'est-ce que je vais en faire ? Et on voit, moi j'ai notamment eu des banques, je ne vais pas les citer là, mais qui sont venues vers nous en disant, on a beaucoup de seniors, on ne sait pas quoi en faire, est-ce que vous pouvez nous aider ? Et là, c'était plus, est-ce que vous pouvez nous aider à nous en débarrasser, entre guillemets,
D'accord.
plutôt qu'aller mieux les intégrer à l'intérieur, quitte à les faire changer de rôle. D'accord. Mais ça, ce n'est pas encore vraiment dans la mentalité française.
D'accord. Et est-ce qu'il y a eu donc un élément déclencheur qui t'a amené à t'intéresser à cette catégorie de population-là ? Donc, tu le disais un petit peu, ta propre expérience de terrain et la confrontation avec tes clients. Mais est-ce que tu t'es aussi fait la réflexion quand tu as commencé à mettre le nez dans ces dispositifs, de te dire, typiquement, les aides qui sont allouées par l'État sont insuffisantes. Tu pourras nous en parler davantage, mais je comprends que... Il y a des aides qui sont versées pour les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans. Il y a aussi des contrats de professionnalisation qui concernent les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans. Il y a des plans de formation qui sont déployés par les entreprises. Donc, il y a quand même certains dispositifs qui sont mis en place. Est-ce que tous ces dispositifs-là te semblent justement insuffisants ?
Non, pas du tout suffisant, parce que les plans de formation, il faut savoir que les profils seniors sont ceux qui en bénéficient le moins.
D'accord.
Donc, ce n'est pas eux qu'on va former quand ils sont dans l'entreprise. Et quand ils sont à Pôle emploi, le problème, c'est que les aides, il n'y en a quasiment pas. On a effectivement les contrats pro adultes pour les plus de 45 ans. Il y a une toute petite aide qui va jusqu'à 2000 euros, mais c'est trois fois rien par rapport à toutes les aides qu'on peut avoir pour des contrats pro jeunes. Là, on l'a vu pour l'alternance, l'État est capable de donner de 5000 à 8000 euros jusqu'à 30 ans. Donc pourquoi le jusqu'à 30 ans alors qu'on a des adultes qui sont en reconversion et qui auraient apprécié pouvoir justement en profiter. Donc en fait, les aides qui existent aujourd'hui, il n'y en a quasiment pas. Et en tout cas, ça n'incite pas les entreprises à recruter des profils seniors.
D'accord. OK. Et alors, dans un monde parfait, toi qui es au contact tous les jours du marché de l'emploi, tu serais par exemple, je ne sais pas, au gouvernement, Elisabeth Borne t'appelle et te propose un secrétariat d'État à l'emploi des seniors. Qu'est-ce que tu proposes comme mesure concrète pour qu'on arrive à inverser la tendance ?
Vaste question. Coucou Elisabeth, si tu nous écoutes. On se prend un petit café quand tu veux. Je pense qu'effectivement, les entreprises, si on veut les inciter, il faut les prendre par le portefeuille. Ça a fonctionné pour les jeunes, ça fonctionne toujours. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour les profils expérimentés. Donc oui, commencer à mettre des aides qui soient valables pour tout le monde, jeunes, seniors, toutes catégories confondues. On pourrait homogénéiser un petit peu les aides qui existent. Après, je pense que le gouvernement ne peut pas faire grand-chose. Je ne suis pas très fan des quotas.
D'accord. Parce que la discrimination positive, ce n'est pas trop ton truc.
C'est pas trop mon truc parce que je me dis que du coup, on ne recrute pas les gens pour leurs compétences, mais parce qu'il faut rentrer dans des quotas. Et on le voit avec les personnes en situation de handicap. Il faut le quota. Dès lors qu'on a le quota, je ne vois pas beaucoup d'entreprises qui dépassent le quota. C'est juste, soit elles préfèrent payer l'amende, soit elles préfèrent faire tout juste le quota. Donc c'est
pas très vertueux comme pratique en réalité.
Par contre,
toi,
de la formation, de la pédagogie, et ça depuis l'école, presque j'ai envie de dire, expliquer la diversité, la mixité, tout ce que ça peut apporter. Ça peut être vraiment intéressant. Former les RH, former les managers. Il faut savoir que quand une personne fait un master RH, il y a très peu de cours pertinents autour du recrutement. Donc on voit beaucoup de paye, de gestion administrative, mais le côté concret du métier, on ne le voit pas. Et donc la capacité à se dire, tiens, je vais recruter une personne expérimentée, il ne faut pas que j'en ai peur. Et donc travailler sur tous ces stéréotypes, ces préjugés et un peu la représentation qu'on en a, ça pour moi est bien plus pertinent. Mais bon, ça, il va falloir plusieurs générations avant que ça bouge.
Donc vraiment sensibiliser à une culture plus inclusive, finalement, première étape selon toi. Et puis aussi peut-être dupliquer de manière plus symétrique ce qu'on propose aux jeunes en contrat pro de moins de 30 ans, eh bien l'appliquer aux seniors finalement.
On pourrait faire l'essai sur 6 mois, 1 an, pour voir effectivement si en ayant les mêmes règles d'aide, quand on soit junior ou senior, ça fonctionne ou pas. Et derrière, je sais qu'il existe des prestations de Pôle emploi qui sont plutôt efficaces, que j'avais utilisées à une époque, notamment pour le recrutement de profils seniors au sein de start-up, qui s'appelle, alors attention aux noms barbares qui vont suivre, c'est l'AFPR, l'action de formation préalable au recrutement. Et il y a la PMSMP, j'avais prévenu pour les noms barbares, qui est la préparation d'une mise en situation professionnelle. Et en fait, ces aides sont valables pour tout le monde. Il n'y a pas de critère d'âge. Moi, je les ai utilisées avec des profils seniors. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition d'une entreprise un profil senior pendant 15 jours jusqu'à 2 mois facilement, sans coût salarial pour l'entreprise. Donc ça lui coûte zéro, mais vraiment zéro, parce que le candidat touche toujours ses aides avec Pôle emploi. D'accord. Et derrière, si l'entreprise décide de recruter le candidat, il peut bénéficier d'une petite aide financière également par Pôle emploi. Donc il économise déjà le salaire pendant le temps où le candidat est à l'intérieur de l'entreprise. Il peut le former à ses outils, à ses process. Et derrière, s'il décide de le recruter, il peut avoir une aide financière. Et ça, Pôle emploi ne le met pas suffisamment en valeur. Et quand on le fait, on se fait engueuler par Pôle emploi parce qu'ils ne veulent pas qu'on le mette en avant.
D'accord, ok. Et alors, quand tu es confronté à ce type de discours des entreprises qui pourraient avoir un frein naturel à procéder à l'embauche de seniors, typiquement face à un recruteur qui t'objecte en critère d'âge, qu'est-ce que tu dirais pour le convaincre de changer d'avis ?
Alors, je vais déjà essayer de comprendre pourquoi l'âge lui pose problème. Donc, souvent, ils vont me dire, il va me coûter trop cher. Donc là, je reviens sur le côté salaire en disant, non, si vous me donnez salaire, moi, je vais vous trouver des seniors qui acceptent ce salaire. Après, il va me dire, oui, mais chez nous, on est une entreprise jeune et dynamique, comme on le voit souvent dans les annonces. Donc là, effectivement, je vais lui expliquer tout l'intérêt d'un peu plus de diversité dans l'entreprise. Je vais lui sortir des enquêtes qui avaient été faites pour lui montrer que de la mixité, ça permet d'avoir des entreprises beaucoup plus performantes que si on est un peu entre soi dans l'entreprise. Après, quand on est face à quelqu'un qui n'a pas envie, on peut sortir toutes les armes qu'on veut. Quand il n'a pas envie, il n'a pas envie. La seule chose que je peux lui dire, c'est faites-moi confiance et je vous propose de faire un test avec un candidat pendant 15 jours, 3 semaines. D'accord. Ça, à la rigueur, c'est le fait de le mettre devant le fait accompli et en situation avec l'accord du candidat en disant le recruteur n'est pas ultra fan, mais j'ai envie de lui prouver qu'au contraire, il a tout intérêt à vous embaucher. Donc avec, entre guillemets, la complicité d'un candidat, oui, je peux essayer de faire ça. Mais c'est que ça reste quand même très, très dur.
D'accord. Non, mais évidemment, quand on a des biais qui sont... un peu latent, on peut essayer d'inverser la tendance. Néanmoins, ce que tu dis, c'est quand on est face à des gens qui sont par principe complètement opposés, on n'arrivera pas à renverser le cours des choses. Mais justement, tu évoquais là ce que ça avait comme plus-value d'intégrer des seniors dans l'entreprise, la confrontation entre les plus jeunes, les plus âgés. C'est quoi le résultat de ces enquêtes auxquelles tu faisais référence? Tu peux nous en parler davantage?
Alors, c'est des enquêtes qui ont souvent été faites au niveau européen ou international. Et l'idée, c'est de montrer justement que quand dans une entreprise, il y a beaucoup plus de mixité, donc c'est à la fois différence d'âge, différence de milieu, de nationalité, d'origine, enfin on mélange tout pour le coup. Et là, on voit que cette manière de mélanger toutes les cultures, tous les styles de travail, les manières d'agir, d'être, et bien on se rend compte que l'ouverture d'esprit des collaborateurs est beaucoup plus large, s'interdisent beaucoup moins de choses et donc vont être beaucoup plus productifs dans les faits. Quand on est dans un groupe où tout le monde pense pareil, ben, c'est difficile de sortir un peu du carton, comme on dit, hein, et de se dire, tiens, on va regarder comment ça se passe ailleurs. On pense tous de la même manière, donc on va tous dans la même direction. Là, l'idée de la mixité, de la diversité, c'est de se dire, ben, comme on ne va pas tous penser de la même manière, on va apprendre à s'écouter et on va apprendre à se laisser des choix en disant, ben, tiens, aujourd'hui, on va tester le chemin A, demain, on fait le chemin B, et après-demain, le chemin C. Et après, on peut voir les résultats qu'on va obtenir qui seront les plus efficaces.
Donc c'est peut-être une sorte de terreau un peu fertile d'idées innovantes qu'on va finalement arriver à implanter dans une entreprise aussi.
Ah bah des entreprises qui prennent des collaborateurs, qui se challengent les uns les autres, mais de manière positive,
c'est les plus riches.
Ouais, clairement.
D'accord. Est-ce que face à justement des seniors qui ont du mal à trouver un emploi qui leur convient, tu aurais tendance à conseiller de ne pas faire figurer l'âge, les photos sur le CV, ou tu n'es pas partisane de ce type de
pratique? Alors, l'âge, dans l'absolu, on s'en fout. Qu'on ait 25 ou 55 ans, sur un CV, normalement, le recruteur ou le RH, il sait compter. Donc, il va voir l'âge à laquelle on a mis le bac, parce qu'en France, on adore toujours mettre le bac. Donc, on va vite calculer, on va vite savoir si la personne a 25 ou 55 ans. Donc, qu'on mette l'âge, ça n'apporte absolument rien. Moi, par contre, je suis pour la photo. Et ce qu'on ait 25 ou 55 ans. Parce que quand on fait du recrutement, c'est de l'affect qui va jouer. Pas que, mais l'affect va forcément avoir son importance. Donc, on va aussi vouloir recruter des personnes qui nous ressemblent, des personnes avec qui on a envie d'aller prendre un café, d'aller manger en terrasse, de passer 2 heures en réunion ou 3 heures en Zoom, comme on veut. Mais en tout cas, il faut des collaborateurs avec qui on ait envie de travailler. Et ça, déjà, la photo va transmettre quelque chose, va permettre de créer du lien. Donc forcément, on prend une jolie photo, on passe par un photographe professionnel s'il faut, on va éviter le photomaton qui nous rend tout moche automatiquement. Mais justement, avec une belle photo où on est souriant, où on se montre dans une posture déjà de professionnel, bah, c'est quand même un petit peu plus facile et engageant pour un recruteur. Et de toute manière, la photo, très souvent, on va la retrouver sur LinkedIn. Donc qu'on la mette ou qu'on la mette pas sur le CV, de toute manière, comme on va stalker sur LinkedIn, on va retrouver. Et donc tout l'intérêt d'avoir par contre une belle photo.
D'accord.
Ça, c'est important.
Et est-ce que tu as d'autres recommandations que tu formulerais à l'égard de ces candidats au recrutement senior dans la recherche d'emploi? Qu'est-ce que tu as comme tips à formuler?
Premier tip, ça va être d'apprendre à être succinct, parce qu'on a beaucoup de profils seniors, ils parlent pendant des heures de leurs expériences, qui sont formidables, qui sont ultra intéressantes, mais à un moment donné, ça ne répond pas à la question du besoin de l'entreprise. Quelle est sa problématique aujourd'hui lors de son recrutement? Okay. Et donc le senior, et n'importe quel candidat, mais surtout les seniors, qui ont déjà 20 ou 30 ans d'expérience, doivent se concentrer sur la problématique de l'entreprise et doivent l'accompagner en lui disant « voilà comment je peux vous aider au quotidien, voilà sur quoi, quels sont mes axes, moi, sur lesquels je peux travailler avec vous », et sans forcément vouloir prendre le lead, parce que ça, c'est aussi un peu le défaut, mais le travers. On a l'impression que le senior va forcément devenir le manager ou le patron, alors qu'en fait, pas du tout. Moi, je connais plein de seniors, ils ont juste envie de s'amuser dans une entreprise. Ils ont peut-être fait une carrière dans des grands groupes, ils veulent aller en start-up pour s'amuser. Ils n'ont pas du tout envie de prendre le lead, mais ils ont envie de partager leurs connaissances. Et donc ça, il faut pouvoir aller droit à l'essentiel, droit au but, pendant qu'on est en entretien avec le dirigeant, pour pouvoir lui dire voilà tout ce que je peux vous apporter demain dans l'entreprise. Et ça doit se dire au travers d'un pitch qui va durer peut-être 3 à 5 minutes grand maximum.
D'accord. Donc vraiment centrer son pitch sur, enfin faire une étude de l'entreprise, de ses valeurs, de sa pratique, et véritablement coller à ce qu'elle recherche, à son besoin pour construire son discours, quoi.
C'est en même temps le fait de rassurer le dirigeant de l'entreprise en lui disant aujourd'hui, je vais peut-être vous coûter un peu plus cher au démarrage, c'est sûr par rapport à un profil junior, mais sur le long terme, je vous apporte mes connaissances, mon réseau, et vous allez voir que dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, mon poste sera largement rentabilisé parce que vous allez investir sur moi et sur mes connaissances. Donc on est vraiment sur un rôle où il faut rassurer le recruteur et le dirigeant et lui en montrer comment on va se projeter avec eux dans l'avenir.
D'accord, très clair. Et est-ce que à cet âge-là, c'est aussi le moment, d'après ton propre constat, où tu vois finalement des candidats qui se disent, c'est peut-être aussi le moment pour moi de lancer un projet entrepreneurial, de bénéficier des aides de Pôle emploi qui permettent un pivot et de lâcher sa carrière de salarié un peu classique pour mener un projet, alors que ce soit, du conseil ou un projet radicalement différent de ce qu'on avait pour habitude de faire jusqu'à présent.
On a effectivement beaucoup de seniors qui vont se reconvertir ou qui vont vouloir créer leur entreprise, soit par choix, soit par obligation. L'obligation, c'est quand ça fait un petit moment qu'ils sont au chômage et que potentiellement l'ancien employeur les rappelle, mais en freelance. Donc là, beaucoup vont se lancer effectivement sur la partie conseil, donc que ce soit en portage salarial, en entrepreneuriat, en micro-entreprise, comme ils veulent. Après, la difficulté, ça va être de prospecter et de se faire connaître. Mais ça, c'est un peu la difficulté pour chaque entrepreneur. Donc ça, on a beaucoup de seniors qui font des missions de conseil. Et après, il y en a qui, effectivement, toujours de manière soit voulue, soit un peu quand ils craquent, décident de faire une reconversion qui n'a absolument rien à voir et d'aller élever les chefs dans le Larzac. Donc là, c'est très important de les accompagner, de leur poser les bonnes questions sur est-ce que vous avez vraiment envie de vous reconvertir, quels sont les enjeux, quels sont vos besoins humains, financiers, les difficultés que vous allez rencontrer, est-ce que vous êtes prêts à ça, pour des fois les ramener un peu sur terre, leur dire ok les gars, c'est cool, mais c'est peut-être pas le moment. On ne dit pas que c'est impossible, en tout cas c'est peut-être pas le moment. Mais oui, on a aussi pas mal de seniors qui se reconvertissent. D'ailleurs, j'avais suivi, c'était une start-up qui faisait ça, qui mettait en lumière tous les seniors qui se reconvertissaient à partir de 50-55 ans. D'accord. Et qui faisait des vidéos juste extra. Donc, je sais que je le partageais souvent dans le réseau pour donner des idées aussi.
Ouais, de reconversion, ok.
Mais ça peut être, communauté. Ça peut être une bonne idée.
Justement, alors là, on est en train de parler de tout ça. Et puis, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur les formations que tu proposes? Parce que je vois que c'est un accompagnement vers l'emploi, mais aussi une réflexion sur ce qu'on a vraiment envie de faire à titre personnel. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des formations dont tu...
Alors, au départ, c'est un programme en présentiel qu'on avait lancé en 2018, parce qu'on s'est rendu compte, ok, c'était cool d'inciter les entreprises à recruter des profils seniors, mais il fallait aussi que les profils seniors soient prêts et soient vraiment opérationnels dans le cadre de leur recherche. Donc, on avait fait un programme en présentiel où on accompagnait pendant un mois en intensif des profils seniors, donc on les voyait tous les lundis, ils avaient des devoirs à faire, ça j'en y tenais énormément, on les faisait travailler ensemble pour avoir ce côté esprit d'équipe. Ça a très bien fonctionné parce qu'on a eu 80% de retour à l'emploi en moins de 6 mois. Et la plupart, quand même, étaient en CDI. Donc ça, c'était super cool. Le Covid est passé par là. Donc on a tout digitalisé en express. Et donc, effectivement, maintenant, le programme est en 100% digital. Donc on a une dizaine de parcours à l'intérieur. Donc ça va effectivement du projet professionnel, où on aide la personne à se poser les bonnes questions. On aborde après tous les outils classiques, le CV, la lettre, les réseaux sociaux, le marché caché, la négociation de salaire très importante parce qu'on a l'impression que les seniors savent faire, mais en fait pas du tout, ils sont pas à l'aise avec ça. Donc on aborde vraiment tous les sujets. Donc ils ont à la fois des petites vidéos donc en micro-learning qui durent 3 à 5 minutes, ils ont leur carnet d'exercice, toujours les devoirs à réaliser. Ils ont une boîte à outils qui comprend, je crois, plus de 200 outils à télécharger. Donc ça, ils en ont à plus savoir quoi en faire. Et on a gardé le côté lien, parce qu'on les a mis sur un outil collaboratif qui permet d'échanger avec eux H24. D'accord. Donc s'ils ont une question, s'ils ont un problème, s'ils sont un peu stressés ou quoi que ce soit, on est là pour répondre à leurs questions, pour faire un mini live ou une mini visio s'il y a besoin, D'accord. En individuel ou en collectif.
Alors du coup, voilà, justement, le travers des formations en digital, c'est parfois qu'on perd le côté un peu culture du réseau. Est-ce que vous, c'est ce que tu étais en train de dire, c'est que vous avez réussi à maintenir ce côté réseautage entre les membres, parce que la force du collectif est importante ces démarches-là. Donc vous arrivez à maintenir un coaching collectif aussi.
Ouais. On a tous ceux qui ont fait le programme ont accès à vie à cette communauté. Donc le programme, nous, il dure 2 mois. On a mis une deadline exprès pour que les gens se bougent et se disent pas « ça va, j'ai un an pour faire le programme ». Non, tu vas te bouger pour chercher du boulot. Donc on te met au défi de le faire en 2 mois. Mais par contre, la communauté est accessible à vie. Et ça, l'intérêt, c'est de se dire « demain, on est en poste, demain, la période d'essai foire, on a à nouveau la communauté avec qui on peut discuter ». pour ne pas perdre pied. Je le vois, moi, dans les seniors qui ont retrouvé du travail, ben, ils partagent des annonces sur le réseau, donc ça, c'est plutôt cool. Ils se remettent à faire des apéros entre eux, donc ils se donnent rendez-vous en se disant, bah, tiens, moi, je suis dans telle région, on se retrouve et on boit un verre. C'était nous ce qu'on faisait aussi avant sur la région parisienne, donc là, on va essayer de relancer les apéros candidats.
D'accord. Apéros candidats, c'est
ouais,
ça le nom.
Les apéros candidats. D'accord, sympa. Et l'idée, c'est de... Alors là, c'est tout âge confondu, pour le coup, on l'ouvre à tout le monde. D'accord. Et c'est... On le faisait une fois par mois, donc on va essayer de le reprendre à partir de septembre. Une fois par mois, on donne rendez-vous dans un bar et on parle de tout et de rien, on réseaute, on discute. Il peut y avoir d'autres confrères en recrutement, il peut y avoir des DRH, il peut y avoir des candidats. Pour le coup, c'est vraiment ouvert à tous. Et l'idée, c'est de pouvoir échanger et réseauter surtout.
Et par la, il y a eu des belles rencontres par l'intermédiaire de ton réseau, justement.
Il y a eu des belles rencontres. DRH, ouais. J'ai moi-même facilité des recrutements grâce à ça. D'accord. Parce que dès lors qu'on a rencontré les candidats, on s'en souvient plus facilement. Et donc, derrière, quand j'ai eu des propositions d'entreprise, je leur ai dit, attends, j'ai vu tel candidat, ça peut être intéressant. Donc oui, ça peut faciliter grandement les mises en relation.
Parfait. Et je t'ai entendu tout à l'heure parler, donc dans tes ateliers, tu expliquais phase après phase que tu proposais comme atelier aux gens que tu accompagnes à l'emploi, aux candidats que tu accompagnes à l'emploi. La lettre de motivation, quelle est ta position sur
elle
le
est
sujet
morte.
Elle est morte, elle est enterrée.
J'ai utilisé le mot lettre, mais en fait, dans les formations, on appelle ça mail de motivation. Oui, effectivement, aujourd'hui, on ne fait plus de lettre de motivation, parce que c'était le cabinet Oasis qui avait fait une enquête et qui avait prouvé que 75% des lettres, quand elles étaient en pièce jointe, n'étaient jamais lues. Donc aujourd'hui, on va préférer effectivement les mails de motivation, donc directement le corps de ce qu'on mettait avant dans la lettre, on le met dans le corps
dans
du mail. En plus court, on arrête de faire des lettres qui font trois pages.
Pas de lettres à rallonge, pas de mail à rallonge.
Voilà, on va essayer de faire quelque chose qui fait 10 à 15 lignes, on va droit à l'essentiel. Et l'idée, c'est de toucher justement l'interlocuteur, si possible le chef d'entreprise ou le manager, en priorité avant d'aller toucher le RH, pour toujours le centrer sur son besoin et comment on peut l'aider. Donc on essaye de travailler là-dessus pour éviter de faire des copier-coller avec les lettres qu'on trouve sur Google.
Oui, qu'on trouve partout. Ok. Un autre point, une autre question que je me suis posée en préparant l'interview, est-ce qu'il y a des secteurs qui valorisent davantage l'expertise que portent les seniors, ou est-ce que est-ce que c'est plus facile quand on est senior d'aller vers certains secteurs d'activité ou pas tellement en fait de ta propre expérience?
Alors de ma propre expérience, tous les métiers un peu autour du RH sont quand même porteurs pour des profils seniors. On le voit souvent en cabinet de recrutement, les consultants, on a des consultants qui ont 50, 60 ans sans difficulté parce que justement ils ont un réseau. Et que c'est facilement exploitable. Donc pour un profil senior, c'est le côté un peu le recruteur qui est posé, qui sait écouter, poser des questions et qui amène son réseau. Donc ça va intéresser. La partie finance, moi j'aime bien les profils seniors en finance. Et j'incite souvent mes anciens DAF, donc mes anciens directeurs financiers, à aller en start-up. Parce que je me dis, quand une start-up a fait des levées de fonds, elle doit d'un coup apprendre à gérer des millions d'euros. Et elle n'a pas forcément l'habitude. Et ce n'est pas un jeune sorti d'école qui va avoir cette habitude et qui va avoir les bonnes manières. Tandis qu'un DAF qui a peut-être vécu ou travaille dans une ETI ou un grand groupe, a l'habitude de manier l'argent. Et c'est déjà ce qu'il faut éviter, les erreurs à éviter.
D'accord.
Là, je me dis que ça peut être vraiment intéressant.
Donc là, plutôt sur les DAF alors. Parce qu'à l'inverse... les banques et la finance de marché, c'est plutôt jeune.
Oui, vire les seniors, ça c'est clair.
Oui. Non. Comme profil en général, quand on pense à
des traders. Plutôt sur les DAF. Ou alors les profils en back-office, l'assistana.
D'accord.
Un profil senior en assistana, ça marche très bien. Quelqu'un de posé, de rigoureux, de rassurant. Ça plaît. Et ça plaît également en start-up, donc c'est plutôt cool.
D'accord. Alors oui, il y a une question aussi que je voulais qu'on aborde ensemble, c'est qu'effectivement on voit des mesures d'âge, des mécanismes de pré-retraite déguisés ou d'aménagement de fin de carrière qui foisonnent. Et puis en perspective, on sent planer cette réforme des retraites qui a été différée certes, mais bon, pour combien de temps? Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Parce que c'est vrai que le concept de travailler davantage et plus longtemps, c'est pas incohérent, toute logique, mais encore faut-il effectivement trouver un emploi qui convienne au-delà d'un certain âge. Est-ce que tu peux nous donner ta position là-dessus ?
Travailler plus longtemps, effectivement, moi, ça ne me choque pas. Aujourd'hui, on vit de plus en plus longtemps. Et je croise des gens qui travaillent à 60 ans, 62 ans, et ils pètent la forme, et ça ne leur pose aucun problème. Et effectivement, a priori, on va être amené à travailler jusqu'à 64, voire plus. Mais le gros problème, c'est que si on est déjà viré à 45 ans, qu'est-ce qu'on fait les 20 années suivantes ? Donc ça, ça va être aussi une vraie question que les RH en entreprise vont devoir se prendre, prendre position, parce que quand ils font leur courbe des âges et qu'ils travaillent leur fameuse gestion prévisionnelle des emplois et compétences, à un moment donné, ils vont devoir se dire, ok, on a une population qui va être vieillissante. Alors, vieillissante, 45, 50 ans, ça va, hein, faut pas déconner non plus. Mais c'est comment on fait pour les accompagner jusqu'à l'âge de la retraite, 64 ans, plutôt que de se dire comment on fait pour s'en débarrasser le plus tôt possible avec justement tous les systèmes qui existent. Et ça, ça va être un vrai challenge pour les RH qui doivent forcément impliquer les fameux DAF, parce qu'il y a le côté financier, et qui doivent impliquer la direction générale. S'il n'y a pas d'accord entre les trois, il ne se passera rien, et de base, il y aura toujours des accords pour essayer de virer le plus tôt possible les collaborateurs qui, soi-disant, coûtent plus cher, même si ce n'est pas forcément le cas. Et l'idée, c'est de repenser le travail en tant que tel, c'est-à-dire qu'une personne qui a 50 ans, peut-être qu'elle n'a pas envie de continuer à mettre les mains dans le cambouis et d'être opérationnelle H24, mais par contre, elle peut-être changer de rôle dans l'entreprise, peut se mettre au process, à la partie qualité, dans du mentoring, dans de la formation. Il y avait un groupe de conseil qui avait fait ça, qui, tous les profils seniors qui le souhaitaient, ils avaient monté une business unit dédiée conseil, et en fait, ils mettaient à disposition tous ces collaborateurs dans chaque service qui avait des difficultés, parce que c'était des experts qui avaient déjà 20 ou 30 ans d'expérience dans la boîte. Donc là, ça, en gros, ils avaient créé leur propre cellule interne. Donc ça peut être intéressant. Mais il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui existent. Il existe le CDD senior pour les plus de 57 ans, mais il ne sert à rien parce qu'il n'y a aucune aide derrière financière. Donc c'est juste un CDD comme un autre. Donc toujours la même chose. Ok, on peut faire des choses si on veut que les gens veulent partir un peu plus tôt à la retraite, mais il faut une incitation financière derrière. Et il faut préparer aussi les gens à partir à la retraite. Parce qu'on a beaucoup de candidats qui partent à la retraite et qui n'étaient pas préparés et qui d'un coup dépriment totalement parce qu'ils se retrouvent du jour au lendemain à plus rien faire. Et élever des poules et tenir un potager...
Ça convient pas forcément à tout le monde.
Ça convient pas à tout le monde.
D'accord. On va arriver à la fin de cette interview. Je voulais te demander s'il y avait des initiatives vertueuses dont tu avais entendu parler récemment ou des entreprises qui avaient une pratique. Là, tu parlais typiquement de cette société qui avait décidé de constituer un pool conseil pour permettre aux seniors d'avoir un parcours un peu alternatif et de réfléchir à comment évoluer dans sa carrière. Est-ce que tu as envie de mettre en lumière une initiative dont tu as entendu parler dernièrement ou qui t'a séduite ?
Alors moi, j'échange très régulièrement avec le média qui s'appelle « J'ai piscine avec Simone », qui s'occupe justement des femmes de plus de 50 ans. Et elle aborde énormément de sujets autour de la femme de plus de 50 ans. Elle travaille d'arrache-pied pour justement faire bouger les choses. Elle m'a dit en off sur Clubhouse lundi qu'elle était en pourparler avec le ministère. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger de ce côté-là. Donc, ça, c'est plutôt cool.
Okay. Donc, personne n'oubliera le nom, de toute manière. Voilà. Je pense que c'est voulu, hein, c'est l'idée. J'ai piscine avec Simone.
J'ai piscine avec Simone. Ils ont même créé j'ai atelier avec Simone. Donc, c'est des personnes vraiment à suivre sur les réseaux sociaux parce qu'en plus, ils font intervenir beaucoup d'experts, beaucoup de consultants et sur tous les sujets qui peuvent intéresser les femmes de plus de 50 ans, que ce soit des sujets perso ou pro. Et rien que pour ça, je trouve ça cool parce qu'ils permettent de mettre eux aussi en lumière des beaux projets.
Super. Ben voilà, on arrive à la fin de cette interview. J'avais une dernière question pour toi, Amélie. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vois le monde du travail de demain ?
Je suis une éternelle optimiste, donc je vous dirais qu'il va être épanouissant. En tout cas, je souhaite qu'il soit épanouissant pour tout le monde. Il va forcément changer. Les gens vont peut-être avoir de moins en moins peur de se lancer à leur compte ou d'être ce qu'on appelle les fameux slasheurs et de faire plusieurs métiers en un. Et ça, je trouve ça cool. Moi, quand j'interviens dans les écoles de commerce et que je leur parle du programme Boost Me Up, j'ai tous les jeunes qui trouvent ça génial. Et je me dis que les mentalités sont en train de changer et que la diversité, la mixité et le plaisir au travail vont reprendre le dessus. Et qu'en fait, c'est le retour au bon sens paysan qui nous a longtemps manqué.
D'accord. Tu nous parlais tout à l'heure des chèvres dans l'Arzac, donc la boucle est bouclée.
Voilà.
Merci pour cette conclusion positive, Amélie.
Merci
beaucoup de t'être livrée à l'exercice avec toute cette sincérité. Merci.